Chapitre 8 Quand les poules ont des dents. Ambroise est resté mignon tant qu'il n'a pas eu faim. Ensuite, les choses se sont gâtées. Il s'est mis à brailler. J'ai fabriqué une bouillie à base de purée de champignons. Hélas, quand j'ai essayé de la lui faire ingurgiter à la cuillère, il me l'a craché au visage. Poppy n'a pas eu plus de succès. En tendant l'oreille, je me suis rendu compte que de tous les coins de la caverne montaient des pleurs de bébés. La totalité des habitants du gouffre était retombée en enfance. La grotte aux merveilles s'était changée en une gigantesque nurserie. « Comment on va se débrouiller ?» a lancé Poppy. « On ne pourra jamais s'en sortir seul. » Je me suis bouché les oreilles. Les hurlements des nouveau-nés, amplifiés par l'écho, étaient proprement insupportables. « C'est à devenir dingue !» a protesté Poppy. « Reste là, lui ai-je ordonné. Surveille Ambroise. Je veux aller voir ce qui se passe. »« Hé !» a lancé ma copine. « Je ne suis pas descendue ici pour faire du babysitting, surtout avec un marmot vieux de 3 siècles. » Sans lui répondre, j'ai quitté la basse-cour. Je voulais voir dans quel état se trouvaient Zongolo, le pompiste, et aussi Globo. Comme je le redoutais, Zongolo s'était changé en petit garçon. Globo, lui, avait rajeuni, mais pas trop. Quand je lui ai demandé pourquoi, il a répondu « Parce que je suis LE réparateur, le seul et unique technicien capable de réparer les engins extraterrestres. La machine ne peut pas se passer de moi. Mon chapeau magique me protège. Il s'ajuste automatiquement aux fluctuations du temps, aux changements. Si je vieillis, il me rajeunit. Si je rajeunis trop, il me fait vieillir. Bref, il s'arrange toujours pour que je sois dans la bonne moyenne. Ne t'inquiète pas pour moi, je travaille d'arrache-pied. Mais nous allons bientôt manquer d'essence. J'attends toujours le camion-citerne. Que se passe-t-il? Pourquoi ne vient-il pas? J'ai dû lui exposer les exigences de Zongolo le pompiste. « Je travaille à la basse-cour pour gagner de quoi le payer, ai-je conclu. Mais je ne toucherai pas mon salaire avant la fin de la semaine. Ne pourriez-vous pas raisonner cet abruti ?»« Non, » a soupiré Globo, « c'est la règle et on doit la respecter. Je ne peux pas prendre le risque de me battre avec le pompiste. Il est beaucoup plus fort que moi et, en tant qu'unique réparateur de la machine, il est hors de question que je sois blessé ou tué. » « En ce moment, ce serait facile, il est redevenu petit garçon, ai-je suggéré. »« Alors, ce serait un combat déshonorant, s'est-il offusqué. »« Il n'en est pas question. »« Je me demande si tu ne serais pas un peu paresseuse. »« Tu voudrais obtenir de l'essence sans avoir à travailler, c'est ça. »« À ta place, j'aurais honte. » Il m'agaçait, mais je n'ai rien dit parce que j'ai compris qu'il était aussi zinzin que Zongolo. Je l'ai observé. Il avait démonté l'un des panneaux donnant accès à la machine et trifouillé là-dedans, les bras enfouis dans les fils électriques multicolores. Comment s'y retrouvait-il? Mystère. Ça progresse? Ai-je lancé pour changer de conversation. Pas vraiment, a-t-il grommelé. Il faut s'attendre à de grands bouleversements. Je vais réussir à arrêter le processus de rajeunissement général, mais je ne pourrai pas grand-chose contre les sauts évolutifs qui se préparent. C'est quoi les sauts évolutifs? Ça veut dire que le temps va revenir en arrière par bonds successifs, en sautant à pieds joints de siècle en siècle. Tu comprends? Oui, je voyais en gros. C'était ce dont m'avait parlé la valise. Je l'ai salué et j'ai repris le chemin de la basse-cour. Ambroise avait fini par s'endormir dans les bras de Poppy qui le berçait. Comme nous étions nous aussi très fatigués, nous avons décidé de l'imiter. C'est le lendemain que la catastrophe s'est produite. Au réveil, pourtant, tout semblait aller pour le mieux. Poppy, qui s'était endormie en serrant le bébé Ambroise dans ses bras, a ouvert les yeux couché contre un garçon de 15 ans. C'était très gênant. Et elle s'est vite éloignée de l'ancien nouveau-né. Ambroise avait recouvré son âge habituel au cours de la nuit. Ça m'a fait rire. J'ai pensé, mais ne le répétez à personne, que si j'avais été à la place de Poppy, je me serais peut-être pas éloigné aussi rapidement. J'ai poussé un soupir de soulagement. Globo était donc parvenu à enrayer le processus de régression. C'était une bonne nouvelle. Je me suis levée pour jeter un coup d'œil dans la basse-cour. Les poulets étaient revenus. Super ! Les œufs avaient éclos pendant notre sommeil et les poussins n'avaient eu besoin que de quelques heures pour redevenir de gros volatiles à plumes blanches. « Heureux de vous revoir, » ai-je marmonné. J'ai décidé de préparer le petit déjeuner, mais je me suis rappelé qu'il n'y avait rien d'autre que du pain à la farine de champignons, de la confiture de champignons et du café de champignons. Je commençais déjà à m'enlacer, et pourtant je ne suis pas difficile en matière de nourriture. J'ai donc fait contre mauvaise fortune bon cœur, et nous nous sommes attablés autour de ce maigre déjeuner, tandis que les poulets caquetaient plus fort que jamais. « Qu'est-ce qui leur prend ?» a grogné Poppy. « D'habitude, ils ne font pas tant de bruit. »« C'est vrai, » a renchéri Ambroise. « On dirait qu'ils sont en colère. » J'ai jeté un coup d'œil par-dessus mon épaule et j'ai frissonné. C'était bizarre, mais tous les poulets regardaient dans notre direction, fixement avec une expression mauvaise. Bon, là, j'exagère un peu pour mettre du suspense, parce que, il est difficile de dire qu'un oiseau change de physionomie. Mais les écrivains font des trucs comme ça, alors je les imite. Poppy a froncé les sourcils et a arrêté de mâcher sa tartine de pain de champignons couverte de confiture de champignons. Et, a-t-elle gémi, qu'est-ce qu'ils font là? Ils me flanquent la trouille, ces oiseaux. Elle n'avait pas tort. Il y avait quelque chose de menaçant dans l'attitude des volatiles immobiles, le bec pointé vers nous. Ils doivent avoir faim, ai-je supposé. Je vais leur distribuer la pâtée, ça les calmera. Dans la remise, j'ai pris la bassine contenant la purée aux granulés de champignons et je suis entrée dans la basse-cour en criant « Petit, petit !» comme les fermières dans les films. Les poulets n'ont pas bougé d'un poil. Ils ne s'intéressaient pas du tout à la purée de champignons, eux qui d'ordinaire se jetaient dessus en poussant des caquettements délirants. « C'est pas bon, ai-je pensé. C'est pas bon du tout. » Dédaignant la nourriture, les bestioles se sont rapprochées de moi pour me donner des coups de bec dans les mollets. Si je n'avais pas porté des bottes en caoutchouc, elles m'auraient troué la peau. J'ai laissé tomber la bassine et pris la fuite. Ambroise s'est précipité pour boucler le grillage. Les poulets se sont jetés sur la porte, passant la tête par les trous pour essayer de le piquer lui aussi. « Ils sont enragés !» a crié Poppy. « Je n'ai jamais vu des poulets aussi agressifs !»« C'est effectivement étrange !» a murmuré Ambroise en se grattant la tête. « D'ordinaire, ils ont plutôt peur de leur ombre. » Mal à l'aise, nous nous sommes retranchés dans la cabane aux accessoires. Je me suis dit que je devrais peut-être aller demander des explications à la machine. Et à hurler Poppy, nous faisant sursauter. Regardez, les poulets sont en train de perdre leurs plumes. Je me suis aperçue que j'étais couverte de duvet blanc et de petites plumes véhiculées par les courants d'air. Le sol de la basse-cour était lui aussi couvert de plumes, à croire qu'on avait éventré un édredon. Les poulets, à présent nus, sautillaient avec nervosité. De temps à autre, ils s'envoyaient des coups de bec. Ils ne caquetaient plus, mais faisaient un bruit étrange, une espèce de grondement que je n'avais jamais entendu jusque-là. « Je n'aime pas beaucoup ça, » ai-je murmuré en m'approchant du grillage. « Je ne sais pas pourquoi, mais ils n'ont plus l'air du tout inoffensifs. » C'est vrai que ces volailles sans plumes qui se dandinaient avait quelque chose d'effrayant. M'observant, elles se sont dirigées vers le grillage, et c'est là que j'ai vu. Leur corps était couvert d'écailles. Alors j'ai tout compris. Je me suis rappelé ce que le prof de science nous avait raconté en classe. Je suis devenue très pâle. « Qu'as-tu ? » s'inquiéta Ambroise. « Tu es blême ?»« Je sais ce qui se passe, » ai-je haleté. « Ça y est, Globo avait raison. » Le processus de régression a commencé. La machine nous a fait faire des bonds en arrière. Qu'est-ce que tu racontes ? S'est impatienté Poppy. Tu as perdu la boule ?
Non, les poulets, ai-je murmuré. Ils sont en train de redevenir ce qu'ils étaient il y a des millions d'années, c'est-à-dire des dinosaures.
Quoi ? Ont glapi mes amis.
Mais oui, ai-je martelé. C'est scientifiquement prouvé. Les descendants des dinosaures ne sont pas les reptiles, comme on l'a longtemps cru. Ce sont les oiseaux. D'ailleurs, ils pondent des œufs, comme eux. Ils m'ont dévisagé comme si j'étais devenue folle. Mais j'avais raison. Le prof nous l'avait bien expliqué. Autant étonnant que cela puisse paraître, on estime aujourd'hui que les oiseaux sont les descendants directs des dinosaures de jadis.
Examinez-les de plus près, ai-je murmuré. Voyez, leur peau se couvre d'écailles. Leurs ailes sont en train de se modifier. Poppy s'est agenouillée contre le grillage. L'un des poulets a poussé un cri et nous avons pu voir que son bec était désormais tout hérissé de dents.
Bon sang, a gémi Poppy, c'est vrai, les poules ont des dents.
Ça va s'accentuer au cours des heures à venir, ai-je dit. Leurs ailes vont se changer en bras griffus, leur bec va se remodeler de manière à constituer de mâchoires. Dans peu de temps, la basse-cour sera remplie de dinosaures. Et je doute que le grillage puisse les retenir bien longtemps. J'ai compté les poulets rassemblés dans l'enclos. Il y en avait 250. 250 poulets, ce n'est pas grand-chose. 250 dinosaures, c'est différent. Il faut s'organiser, a proposé Ambroise. Le mieux serait de gagner ses hauteurs en espérant que ces affreuses bestioles ne sont pas douées pour l'escalade.
Tout à fait d'accord, ai-je dit. Je ne tiens pas à être là quand elles vont s'attaquer au grillage.
Nous avons rassemblé nos affaires en quatrième vitesse. Les poulets dinosaures, comprenant que nous allions leur échapper, se sont rués sur le grillage de clôture pour le mordre. Leurs nouvelles petites dents avaient l'air très au point, car en un rien de temps, ils ont cisaillé les croisillons de fil de fer.
Par là, vite ! A crié Ambroise qui avait récupéré son épée. Gagnons les hauteurs, nous y serons plus à l'aise pour les repousser.
Je l'ai suivi sans discuter, car il connaissait le terrain mieux que nous. Comme je ne cessais de regarder par-dessus mon épaule pour voir si les horribles poulets s'étaient lancés à notre poursuite, je me tordais les chevilles sur les cailloux du sentier. Ambroise progressait vite. En un rien de temps, il nous a conduits au pied d'un énorme rocher dominant le paysage. Il y a des entailles là et là, a-t-il indiqué. Utilisez-les pour vous hisser au sommet. Je vais essayer de trouver des bâtons. Nous lui avons obéi. L'escalade s'est avérée difficile, mais en un sens, cela m'a rassuré. Je me suis dit que nos poursuivants auraient, eux aussi, du mal à grimper. Poppy m'a aidé à prendre pied en haut de la pierre. Nous dominions la basse-cour d'une bonne quinzaine de mètres. J'ai eu l'impression de me pencher au créneau d'un donjon. J'ai vu les poulets. Ils avaient éventré la clôture et regardé dans notre direction comme s'ils hésitaient à nous poursuivre. « Ils vont peut-être renoncer, » a murmuré Poppy. « Ils ont sûrement compris que nous étions hors de portée. »«
Je ne crois pas, » ai-je soupiré. Je pense qu'ils attendent la fin de leur transformation pour être plus forts. Quand ils seront devenus de vrais petits dinosaures, ils passeront à l'attaque.
Oui, mais justement, ils sont petits, on en viendra vite à bout.
Je n'ai rien dit pour ne pas l'inquiéter, mais je savais qu'une meute de petits dinosaures était aussi dangereuse qu'un seul gros lézard. En partie parce qu'elle encercle aisément sa proie, la harcelant de tous côtés.
Ambroise nous a rejointes. Il portait deux bâtons tordus qui auraient pu faire office de massue. Il nous les a tendus avec une grimace d'excuse.
Désolé, a-t-il dit, je n'ai rien trouvé de plus gros.
J'avais la bouche sèche. Nous nous sommes assis en attendant l'assaut. Les poulets s'étaient regroupés en une masse verdâtre et écailleuse qui grouillait à l'entrée de la basse-cour. Ils avaient cessé de caqueter pour émettre des grognements menaçants. Par moments, ils se mordaient entre eux. On voyait bien qu'ils devenaient de plus en plus méchants.
« Je crois qu'ils ont faim, » a soufflé Ambroise.
et qu'ils ont décidé de ne plus se contenter de bouillies de champignons. Brusquement, les bestioles se sont ruées en avant, se bousculant les unes les autres. Quand elles se sont rapprochées, j'ai pu constater qu'elles ne ressemblaient plus du tout à des poulets. Désormais, nous étions bel et bien en présence de petits dinosaures de 50 cm de haut, petits mais féroces. Montjoie Saint-Denis a crié Ambroise en dégainant son épée et en poussant l'ancien cri de guerre des chevaliers du Moyen-Âge. Il a bondi sur ses pieds, prêt au combat. Poppy et moi l'avons imité avec beaucoup moins de panache, beaucoup moins d'allure. J'ai pris mon bâton à deux mains et je me suis préparé à l'affrontement. Une minute après, les dinosaures encerclaient déjà la base du rocher où nous étions perchés. D'abord, j'ai poussé un soupir de soulagement parce qu'ils avaient manifestement du mal à l'escalader. Leurs griffes, encore trop tendres, ne parvenaient pas à accrocher les creux et les saillies de la pierre. « Ouais !» a triomphé Poppy. « Ils n'y arriveront pas !» J'ai trouvé qu'elle se réjouissait un peu vite. Après plusieurs tentatives infructueuses, les bestioles ont renoncé à s'agiter. Massées au pied du rocher, elles attendaient, la tête levée, leurs vilains petits yeux fixés sur nous. Leurs mâchoires claquaient en cadence, dégoulinantes de bave. « Quand elles en auront assez, elles ficheront le camp !» a prophétisé Poppy. « Tu te trompes, » ai-je soufflé. « Elles sont malines. Elles attendent simplement que leurs griffes durcissent. » J'avais raison, hélas. Soudain, dans un même élan, le troupeau s'est élancé à l'assaut du caillou. Cette fois, leurs griffes ont su trouver les prises qui convenaient et très vite les petits dinosaures ont progressé le long de la paroi en direction du sommet. Nous nous sommes placés dos à dos de manière à pouvoir les accueillir de n'importe quel côté. Leurs ongles recourbés, très longs, crissaient horriblement sur la pierre au fur et à mesure que les monstres se rapprochaient. Quand le premier d'entre eux a voulu prendre pied au sommet du rocher, Ambroise l'a frappé avec son épée. Et là, nous avons eu une très mauvaise surprise. La lame s'est brisée en touchant le dinosaure. J'ai examiné la bestiole. Elle avait pris l'apparence et la texture d'une statue. « Mais oui, bien sûr !» s'est lamenté Ambroise. « Je suis idiot. La machine ne fait pas la différence entre les bêtes normales et les dinosaures. Pour elle, ce sont des animaux et elle les protège de la même façon. Nous ne pourrons pas les tuer. » Ça, c'était vraiment la plus mauvaise nouvelle de la journée. Le dinosaure statufié n'est resté immobile qu'une trentaine de secondes. La menace étant écartée, il a recouvré sa mobilité et s'est mis à ramper vers moi en claquant des mâchoires. Ça m'a agacé. J'ai pris mon bâton à deux mains et je l'ai frappé de toutes mes forces comme si c'était une balle de golf. Il s'est envolé dans les airs pour s'écraser au pied du rocher. Bon, ça ne l'avait pas tué, mais au moins il ne pourrait pas nous mordre. Il va falloir se contenter de les repousser, a crié Ambroise. Espérons qu'ils finiront par se lasser. Durant la demi-heure qui a suivi, nous avons lutté pied à pied pour balancer les dinosaures dans le vide chaque fois qu'ils arrivaient au sommet. Ça ne leur faisait ni chaud ni froid. Ils dégringolaient, s'ébrouaient, puis repartaient à l'assaut. Infatigables. La machine les protégeait, ils n'étaient jamais blessés. Les pires coups de bâton les laissaient indemnes. Il fallait d'ailleurs s'appliquer à ne pas frapper trop fort, car nos armes auraient fini par se briser sur leur chair pétrifiée. Chaque fois qu'ils étaient menacés, ils se changeaient en gargouilles de pierre. Une fois le danger écarté, ils reprenaient leur aspect normal. Pendant ce temps, l'épuisement nous gagnait. Je commençais à souffrir des bras et des jambes. Ambroise s'était fait vilainement griffer. Poppy dégoulinait de sueur. On ne pourra plus tenir bien longtemps, ai-je pensé. Comble de malchance, mon bâton s'est brisé, me laissant désarmé. Nous faisions peine à voir. Ramassons des cailloux, a hoqueté Ambroise à bout de souffle. J'ai obéi, mais c'était beaucoup moins commode. Pour frapper les dinosaures, il fallait s'approcher très près d'eux, ce qui leur permettait de nous griffer ou de nous mordre. Il était à présent difficile, en les regardant, de se dire que quelques heures auparavant, ils portaient encore des plumes et se dandinaient en caquetant. C'étaient d'horribles petits monstres à la gueule pleine de dents, aux griffes longues comme des poignards. Nous étions près de succomber quand, par chance, une avalanche s'est produite. Je suppose qu'elle avait été provoquée par les chocs répétés des dinosaures dégringolant du haut du rocher. Les vibrations courant le long des crevasses avaient fini par déclencher une catastrophe. D'un seul coup, des dizaines de grosses pierres se sont détachées de la voûte pour nous bombarder. La meute des vilains lézards s'est trouvée prise sous ce cataclysme et a été balayée. Il faut en profiter, à hurler Ambroise. Vite, fichons le camp. Je ne sais pas comment nous avons réussi à ne pas être écrasés par l'avalanche. Mais nous avons glissé sur le versant opposé du rocher, cul par-dessus tête, pour nous retrouver le nez dans la poussière. Vite, a répété Ambroise. Les lézards sont désorganisés. Évaporons-nous dans la nature. Couverte de bleu et de griffures, nous lui avons emboîté le pas. Des dinosaures piaillaient derrière nous, à moitié ensevelis sous les pierres qui s'étaient détachées. L'ennui, c'est que l'avalanche ne pourrait pas les tuer puisque la machine les protégeait toujours. Tôt ou tard, ils finiraient par se dégager et se lancer à notre poursuite. L'éboulement avait provoqué une tempête de poussière et nous avons failli nous perdre au cœur de ce nuage. Heureusement, Ambroise m'a saisi la main et j'ai pris celle de Poppy. C'est en formant une chaîne que nous avons continué à progresser dans ce labyrinthe de roches. La caverne, immense, était en fait composée d'une infinité de grottes plus petites. C'est vers l'une de ces cavités que nous nous sommes dirigés. Une fois à l'abri, je me suis effondrée dans un coin à bout de force. Ambroise et Poppy m'ont imité. Nous avions mauvaise mine. J'allais reprendre la parole quand un haut-parleur a mugi à l'extérieur, d'une voix courroucée qu'on devait entendre à 3 kilomètres à la ronde, la machine a déclaré « Je rappelle aux occupants humains de la caverne qu'il est formellement interdit de faire du mal aux animaux. Les poulets de la basse-cour viennent de déposer une plainte contre un groupe de 3 adolescents, un garçon et 2 filles. Qui les ont maltraités de la manière la plus cruelle qui soit, en les frappant un coup de bâton. Je suis indignée par un tel comportement. J'ordonne que ces criminels soient arrêtés et conduits jusqu'à moi pour subir le châtiment qu'ils méritent. Tous les humains occupant la caverne auront donc pour mission de traquer ces délinquants et de me les amener au plus vite. » « J'y crois pas, a hoqueté Poppy. Dis-moi que j'hallucine. Les dinosaures ont porté plainte contre nous parce que nous n'avons pas accepté de nous laisser gentiment dévorer. » Ambroise a haussé les épaules. « Ça ne m'étonne pas, a-t-il soupiré. La machine a toujours donné la préférence aux animaux. Elle considère les humains comme de redoutables prédateurs. Et, comme elle est plus ou moins détraquée, elle est incapable de se rendre compte que ses chers poulets sont devenus des monstres. En attendant, nos têtes sont mises à prix, ai-je grogné. C'est un comble. Tout le monde va nous donner la chasse. J'étais plutôt écœurée. Je me suis demandé ce que je fichais ici. Nous avons décidé de manger pour reconstituer nos forces. Grâce à la petite trousse de premier secours que j'avais emportée, nous avons pu soigner nos blessures. J'avais franchement envie d'envoyer tout balader et de rentrer chez moi. Mais bon, ce n'était pas aussi simple. Pendant que mes amis se reposaient, je me suis embusquée au seuil de la caverne pour surveiller les alentours. J'appréhendais le moment où les dinosaures réussiraient à se dégager des éboulis et retrouveraient notre piste. J'ai fini par m'assoupir moi aussi. J'ai été réveillée en sursaut par une forte vibration. J'ai regardé autour de moi. Tout était flou, comme si le monde était en train de s'effacer. Ça n'a duré que 3 secondes, puis les choses se sont remises en place.
Qu'est-ce que c'était ? A demandé Poppy.
Je crois que nous venons de faire un autre saut évolutif, ai-je chuchoté. Nous continuons à nous déplacer à rebours.
Ça veut dire quoi, en clair ?
Ça veut dire que nous continuons à remonter vers les premiers âges du monde. La machine ne parvient plus vraiment à se situer dans le flux temporel. Elle erre au hasard sans réussir à retrouver le présent. Elle procède par bonds successifs.
C'est un peu comme si tu te trouvais prisonnière d'un ascenseur dont les boutons ne comportaient aucun numéro d'étage et serait dans le désordre.
Ah ouais, je vois le genre. La machine est dans la même situation. Elle appuie au hasard sur les boutons en espérant que cette fois ce sera le bon.
Ouais, mais elle se trompe à chaque fois.
Eh oui.
J'ai jeté un coup d'œil au dehors. Difficile de déterminer à quelle époque nous étions. Une caverne d'aujourd'hui ou d'il y a 100 000 ans, ça a la même allure. Enfin, je crois.
Peut-être qu'Ambroise aurait une meilleure appréciation des choses puisqu'il vivait là depuis 3 siècles.
Je me suis tournée vers lui et là, j'ai vraiment sursauté.
Ambroise était à présent chevelu et barbu et tout couvert de poils. Son visage avait changé lui aussi, comment dire, il avait pris une expression simiesque. Il ressemblait à un singe. Le front très bas, l'arcade sourcilière formant un gros bourrelet au-dessus des yeux. Lui qui était auparavant si mignon était devenu affreux.
Hé, qu'est-ce qu'il a ? A bredouillé Poppy en reculant précipitamment.
« Tu ne vois pas, ai-je soufflé. Il s'est changé en homme de Néandertal, en homme des cavernes. La machine nous a ramenés au temps préhistorique. Si nous n'étions pas protégés par les cachets magiques que nous a fait avaler la valise, nous serions comme lui. »
Poppy a eu une grimace de dégoût. Ambroise, lui, s'est mis à grogner en nous dévisageant avec méfiance.
Sans doute, ne se rappelait-il plus qui nous étions. Son cerveau d'homme des cavernes avait perdu ses souvenirs récents.
« Ne fais pas de gestes brusques, ai-je conseillé à Poppy. Je ne voudrais pas qu'il nous défonce le crâne à coups de pierre. »
Après avoir beaucoup reniflé, Ambroise s'est longuement gratté. Ses bras étaient plus longs que ceux d'un homme normal. Les poils qui lui couvraient le corps lui donnaient l'aspect d'un gorille. Brusquement, il a arraché ses vêtements qui paraissaient l'incommoder.
J'ai évité de bouger. Je me suis forcée de sourire sans montrer mes dents.
Le prof de sciences nat nous l'avait expliqué. Chez les singes, montrer ses dents est un signe d'agressivité. Quand un singe commence à vous sourire, mieux vaut prendre ses jambes à son cou.
Ambroise a hésité. Il s'est approché de moi pour me flairer puis s'est détourné.
Ramassant 2 morceaux de silex sur le sol, il les a frappés l'un contre l'autre pour les tailler.
« Voilà qu'il se fabrique une hache, » a fait Poppy.
« Tu crois qu'on est en sécurité avec lui ?»«
Toujours plus qu'avec les poulets, » ai-je répondu.
Je ne voulais pas le montrer, mais j'étais triste. Je préférais nettement Ambroise sous son ancien aspect.
« Pas vous ?»